Et ici Félix-Antoine Parent, bienvenue à votre émission, l'injuste émission d'affaires publiques qui reprend en 2022. Première édition, ça se poursuivra comme ça tout l'année et on a le souhait parce que là on est revenu à un format de 30 minutes depuis quelques émissions déjà. Le souhait assurément là, que dans les prochaines semaines, on retrouve une émission avec un format d'une heure comme on vous avait habitué auparavant. Aujourd'hui à l'émission, écoutez, on a deux entrevues à vous proposer. Une première entrevue avec la députée de Pontiac, Sophie Châtel, avec qui on va jaser de ses priorités pour l'année 2022. Assurément que l'Internet haute vitesse en fera partie. Et on vous présentera également une entrevue réalisée par la journaliste Kim Lacaille avec Luc Brodeur. Il est président d'Unis pour la faune, l'organisme qui milite pour des meilleures mesures, des mesures qui seraient mises en place pour mieux assurer une meilleure gestion de la faune pour assurer un meilleur succès de chasse, là, particulièrement en ce qui a trait à la chasse au cerf de Virginie. Mais donc, pour cette première entrevue de l'année 2022 qu'on vous propose à l'instant, on a commencé, on brise la glace cette année avec la députée fédérale de Pontiac, Mme Sophie Châtel, qu'on a au bout du fil. Mme Châtel, bonjour, bonne année 2022.
Bonjour, bonne année Félix-Antoine.
C'est c'est sûr que la pandémie continue à ébranler notre quotidien, mais vous avez, il y a plusieurs dossiers qu'on va surveiller en 2022. Il y a un dossier qui est très, très, très cher à la région et aux Val-Gatinois, c'est assurément le dossier de l'Internet haute vitesse. J'aimerais qu'on commence avec celui-là parce que c'est vraiment quelque chose qui va changer le quotidien des gens, mais qui ouvre des possibilités de développement également au niveau économique, entre autres, c'est attirer des gens qui vont peut-être faire le choix de partir de la ville et s'installer à leur chalet et en faire une résidence principale, par exemple, entre autres. Mme Châtel, justement, est-ce que c'est vraiment 2022 l'année de la connexion Internet haute vitesse dans la région?
Oui, bien, les ententes sont toujours là et les termes n'ont pas changé. On s'attend que septembre 2022, les foyers seront raccordés à l'Internet haute vitesse dans nos communautés. Donc, j'ai aucun signe de retard en ce moment et on se souviendra qu'il y a des pénalités qui seront en vigueur si jamais les services ne sont pas fournis dans les délais. Donc, on surveille toujours ça de très près, mais j'ai bon espoir que ça sera livré en septembre 2022.
On en est rendu où là, là-dedans? Est-ce qu'on a 25 % du travail de fait, 50 %? Est-ce qu'on sait à peu près on en est où le portrait là?
J'ai pas les chiffres exacts parce que c'est la province de Québec qui gère le contrat, mais effectivement, j'ai de l'information suivant laquelle on est dans les délais. Ça progresse bien.
OK. Et les pénalités, parce que on est de bonne foi, on donne la chance aux coureurs, mais on a déjà joué dans ce film-là. C'est pas d'hier, ça fait longtemps qu'on devrait avoir l'Internet haute vitesse dans la région. Les anciennes ententes, justement, n'étaient pas... on n'avait pas beaucoup de poigne pour imposer aux gens des pénalités, aux entreprises des pénalités. Est-ce que ces pénalités-là sont suffisamment importantes et significatives pour justement vraiment leur donner envie de ne pas subir ces pénalités-là?
Tout le monde est vraiment de bonne foi là-dedans. Là. C'est sûr que tout le monde travaille fort pour livrer l'Internet haute vitesse. Je pense qu'il n'y a pas d'enjeu de dire c'est pas une priorité. C'est une priorité. On parle d'un virage économique numérique. Alors, si on veut que nos communautés puissent bien se positionner dans ce virage-là, il faut qu'elles aient Internet haute vitesse. Ouais. Donc, il y a aussi d'autres technologies qui s'en viennent aussi pour appuyer. Donc, les pénalités, s'il y en a, pourraient être utilisées pour ces nouvelles technologies satellitaires-là.
On parle de Télésat.
Moi, ce que je dis, c'est que faut vraiment garder l'œil, suivre le dossier, mais j'ai pas d'indication que l'Internet haute vitesse ne sera pas branché dans les foyers en septembre 2022.
C'est même d'ici
donc,
là.
On va suivre ça de près. Ça. Malheureusement, on n'a pas tout le contrôle de ces firmes-là. Donc, ouais. Mais
c'est ça le problème.
On tue le dossier.
Ouais, parfait. Parce que c'est un peu ça, justement, le problème, c'est que c'est tellement des gros joueurs. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de municipalités avec qui je parle, des élus qui eux-mêmes, eux autres, peinent à savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est, la situation dans leur municipalité. Donc, tu sais, si à l'échelle micro-locale, on a de la misère à savoir ce qu'il y en est. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais on dit qu'on est dans les temps. Parfait. Espérons que ça demeure ainsi. Autre priorité, là, je suis allé avec la priorité que nous, on surveille davantage, mais bon, j'imagine que le plan d'un Pontiac vert et prospère, vous avez travaillé là-dessus en 2021, ça se poursuit en 2022 également?
Oui, ben rappelons que l'objectif, hein, quand on parle de transition vers une économie numérique, c'est aussi une transition vers une économie verte. Les experts disent que entre 2030-2040, on va faire face à une transition au niveau de l'économie globale. Et il y aura évidemment des gagnants et des perdants dans ce virage-là. Les gagnants, ce seront ceux qui s'y seront préparés et ben les perdants, ce seront ceux qui n'y seront pas. Donc, le but de cette initiative pour un Pontiac vert et prospère, c'est de s'assurer que nos communautés soient prêtes à saisir les opportunités de développement économique dans cette transition vers une économie verte. On a lancé la première phase, Félix-Antoine, avec une initiative, un document de lancement qui est sur mon site Internet. Mais là, on passe dans la deuxième phase, c'est-à-dire que on a rassemblé les membres de notre communauté, qu'on parle des élus provinciaux, municipaux, les leaders d'organisations, d'affaires communautaires autochtones, d'agriculteurs, des experts aussi. Et on va commencer dès janvier avec la ministre de l'Agriculture une table ronde sur l'agriculture. Et on va s'en suivre une quinzaine d'autres tables rondes sur des enjeux économiques et sociaux. Le but de ces tables rondes-là, c'est qu'avec nos élus, nos experts, on se projette en 2040, puis on dit, on identifie les opportunités pour nous d'un virage vert avec les programmes fédéraux, les investissements dans ce virage-là. Quelles sont les possibilités de financement, les initiatives au niveau local, mais aussi les obstacles à une prospérité à long terme. Ensuite, on va lancer des consultations publiques. On a déjà débuté avec le site, la plateforme de consultation Cocorico pour faire en sorte que chacun d'entre nous, dans notre circonscription, puisse avoir un mot à dire sur les opportunités d'un virage vert et les obstacles. Alors, suite aux tables rondes, on va en extraire des questions qu'on va amener dans le public. Et tout ça, Félix-Antoine, c'est pour déboucher sur ce qu'on appelle un livre vert qui va nous mettre sur la voie de la prospérité en 2040, 2050 et pour une société qui sera zéro émission nette.
C'est des grands défis, hein. Est-ce que c'est tout ça réaliste ou en fait pas réaliste parce qu'on peut, tu sais, on peut se donner les moyens de nos ambitions puis on a quand même longtemps en avant, tu sais, on se donne beaucoup de temps pour y arriver, mais on parle de le Pontiac, la vallée de la Gatineau, les deux MRC à peu près les plus pauvres au Québec. Quand on parle de prospérité, tu sais, on veut pas faire des faux espoirs aux gens. Qu'est-ce qu'on entend par prospérité? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu cette prospérité-là. À quoi on peut... Ça serait quoi? Qu'est-ce que ça offre comme possibilité? C'est quoi cette prospérité-là qu'on peut attendre en 2040?
Mais par exemple, on débute nos tables rondes sur l'agriculture. L'agriculture, qu'est-ce qu'elle va être en 2040? On va parler de... on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Mais quelle sera la main-d'œuvre au niveau agricole en 2040? Quel sera l'impact de la robotisation dans l'agriculture? C'est une grande question. Et il y a du financement pour aider les entreprises agricoles à innover au niveau technologique. Si on était les premiers, on serait bien positionnés pour bénéficier de l'agriculture de l'avenir. Au niveau de l'agriculture, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, par exemple, et d'achat local. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça va avoir de l'air, l'agriculture, en 2040, lorsque plusieurs pays où on va déjà chercher nos fruits et légumes, par exemple en Californie, ils ont des grosses questions par rapport à l'accessibilité de l'eau. La Californie ne pourra pas nous nourrir indéfiniment. Donc, l'achat local va devenir de plus en plus important parce que les coûts du transport de la nourriture avec la tarification du carbone, par exemple, et la question de l'eau, dans les prochaines années vont être un enjeu qui vont nous amener à se développer au niveau local. Ouais. Et ça, ben, si on s'y prépare bien, on va ressortir gagnant et nos communautés qui sont actuellement marginalisées, plus pauvres, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu si elles se positionnent bien. En fait, c'est l'intention.
Mais est-ce qu'on pourrait
d'apporter des opportunités de prospérer?
Ça pourrait-tu faire en sorte qu'on soit plus les plus pauvres? Est-ce qu'on pourrait justement être dans les plus riches? Ou tu sais, à quel point ça pourrait faire une différence? Parce que tout le monde va faire un virage. T'sais, on n'est pas unique dans le Pontiac. Puis s'il y en a qui voient qu'on a des belles pratiques, ils vont les adopter aussi. Fait que, tu sais, on ne sera pas les seuls à avoir cette prospérité-là. J'imagine que tout le monde va faire un virage. Est-ce qu'on peut justement espérer qu'on ne soit plus dans les derniers, mais peut-être dans le milieu du peloton ou dans la tête de peloton? Ou on peut pas rêver, c'est ça serait rêver en couleur?
Ben moi, je me dis, il faut se préparer. Souvent, ben c'est les premiers qui se développent, qui ressortent gagnants de ces grands changements économiques-là. On l'a vu historiquement avec la révolution industrielle. On l'a vu et il faut bien se positionner. Okay. C'est vraiment le but de l'initiative. C'est ambitieux, mais en même temps, c'est un exercice qu'on se doit de faire en communauté.
Ben oui, c'est ça. Rester croisé, les bras croisés à rien faire et regarder le train passer, c'est pas une solution non plus.
Non.
Autre priorité, quelles sont-elles vos priorités, Mme Châtel, pour 2022?
Ben 2022, dans cette initiative-là pour un Pontiac vert et prospère, quand on parle d'un virage vert, on parle aussi de prospérité économique et sociale. Donc, je vous dirais, Félix-Antoine, que toutes les priorités vont être là parce que on a beau faire le meilleur plan environnemental, si on n'est pas capable de régler les grands enjeux sociaux, par exemple, pénurie de main-d'œuvre à long terme, le logement abordable, le traitement des aînés, ben on libère pas la capacité de nos communautés à se développer. Donc les enjeux sociaux sont aussi abordés et les enjeux technologiques. On parlait tout à l'heure de Internet haute vitesse, mais on va en reparler dans le contexte de Pontiac vert et prospère.
OK. Bien, ça va être, on va surveiller ça, nous, à la station CAGA, là, à la radio, assurément, cette année, le développement de ces projets d'envergure, tu sais, l'Internet, Pontiac vert et prospère, tu sais, c'est des choses qui peuvent, à long terme, on le souhaite, à long terme, changer le portrait de la région, offrir des nouvelles, c'est le but, là, des nouvelles, possibilités, des nouvelles avancées pour la région. Eh bien, avant de terminer, rapidement, Mme Châtel, vous avez été nommée sur un comité des finances au niveau fédéral, mais également, vous avez été nommée présidente du caucus libéral rural. C'était belle. Premièrement, félicitations.
Merci, merci beaucoup.
Ça représente quoi, ça?
Pour le comité des finances, c'est quelque chose qui est très important. On parle de réviser toutes les législations, toutes les lois qui sont au niveau économique et fiscal. Donc, c'est une position qui est très importante. On a juste quelques députés qui sont représentés à ce comité-là. Donc, ça va jouer exactement dans mes compétences aussi au niveau de ma carrière à l'OCDE puis au ministère des Finances. Donc, je suis très contente parce que je vais pouvoir maximiser l'expérience que j'ai et l'apporter au gouvernement dans ce comité important-là. Et oui, c'est un honneur d'avoir été élu par mes collègues présidente du caucus rural. Ça fait en sorte que c'est moi qui va être le porte-parole des communautés rurales pour le Parti libéral au sein du gouvernement. Et par exemple, ce qui est important de faire dans ce rôle-là, c'est de voir est-ce que les programmes qui sont développés au niveau du gouvernement vraiment desservent les besoins des communautés rurales. Et ça, il y a beaucoup de programmes, je pense, moi, qui pourraient être plus adaptés à nos communautés rurales. Et donc, comme présidente, je vais être informée de participer à toutes les conversations au niveau de la ruralité.
Ben écoutez, c'est fort intéressant. Vous souhaite bonne chance avec ce nouveau, ben, ces nouveaux rôles. C'est pas très nouveau, vous l'aviez su là, au courant de l'année 2021, mais je trouve ça intéressant. Puis ça donne une voix de plus, je pense, pour la vallée de la Gatineau et le Pontiac, là, surtout en tant que présidente du caucus libéral rural. Eh bien, Sophie Châtel, donc, vous êtes députée de Pontiac au niveau fédéral. Merci d'avoir pris du temps avec nous de nous dresser les priorités pour l'année 2022. Puis on va suivre ça ensemble là, au courant de l'année. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Félix-Antoine, et une bonne année.